Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une petite musique qui se fait entendre depuis plusieurs mois et qui s'est intensifiée dans la torpeur de l'été avant de devenir carrément obsédante à la rentrée. Les institutions internationales financières comme le FMI avertissent depuis des mois. Les banques centrales, souvent sous pression politique, soulignent leurs efforts de soutien à l'activité économique. Entre la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la probabilité de plus en plus forte d'un Brexit sans accord, la pression géopolitique sur le marché pétrolier avec l'attaque des installations saoudiennes, les inquiétudes pour l'économie mondiale sont de plus en plus vives. La récession est-elle inévitable ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Christian de Boissieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes. Et Dominique Plion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie financière à l'université Paris 13 et membre du conseil scientifique du mouvement Attaque France. L'analyse de la situation économique mondiale que je viens de présenter très très sommairement, est-ce que vous la partagez ou est-ce que j'ai été exagérément pessimiste, Christian de Boissieux?
Non, vous avez cité tous les nuages qui sont en train de s'accumuler sur l'économie mondiale. Alors, c'est pas une liste à la Prévert, mais il y a quand même un certain nombre de sujets. Vous avez parlé de la guerre commerciale. Alors, Monsieur Trump tantôt souffle le chaud, tantôt le froid. Donc, du côté des relations entre Américains et Chinois, on ne sait plus très bien où on en est. Le G7 de Biarritz a essayé de, sans les Chinois, parce que par définition ils sont pas au G7, a essayé de clarifier un peu les choses dans le bon sens. Le Brexit, à mon avis, là on va vers une absence d'accord. Le pétrole, voilà. Une récession, c'est quoi? Une récession, c'est une croissance négative. Quand est-ce qu'on a eu, au plan mondial, une croissance négative? Pendant quelques mois, en 2009, après la faillite de Lehman Brothers. Et puis, ça a duré 6 mois, et après, je dis au plan mondial. Mm-hmm. Il y avait des pays qui étaient en récession, en 2009, et même déjà en 2008, mais je raisonne globalement. Alors là, il y a, je pense que la croissance mondiale ne va pas être en récession ni cette année en 2019 ni en 2020. Par contre, la Chine ralentit. On ne sait pas de combien, mais elle ralentit. Même l'Inde ralentit. Je rajoute à la liste, etc. Donc, beaucoup de sujets d'inquiétude. Et je termine cette première salve en disant que, au fond, ce qui nous inquiète, moi, vous avez compris, je pense que la croissance va rester positive en 2019. Est-ce qu'on va être au plan mondial à 2,5? Le FMI est trop optimiste. Le FMI est encore au-dessus de 3,5, et je pense que c'est trop. On va être plutôt 2,5-3 cette année, peut-être 2,5 l'année prochaine au plan mondial. Bon, je dis simplement, moi, ce qui m'inquiète par rapport à une décélération qui n'est pas une récession au plan mondial, c'est qu'on a le sentiment qu'en face de cette situation compliquée, difficile, les marges de manœuvre se sont beaucoup réduites, les politiques monétaires ont tout lâché, ça veut dire qu'elles n'ont plus grand-chose à lâcher, donc il faut trouver des relais, j'imagine qu'on va en parler, des relais du côté budgétaire, fiscal et autres. C'est ça le débat, à mon avis. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, mais sans doute plus tellement du côté des politiques monétaires.
Alors, effectivement, on va en parler. Dominique Plion, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, vous aussi, pour l'économie mondiale?
Ben, ce qu'on appelle pessimiste, je sais pas. En tout cas,
je suis d'accord
avec ce que vient de dire Christian de Boissieux, au sens où on assiste indéniablement, les chiffres sont clairs, à un ralentissement. Christian de Boissieux a parlé de décélération de la croissance dans l'économie mondiale, et ceci est général, c'est-à-dire sur l'ensemble des continents, que ce soit le continent asiatique, le continent aux États-Unis américains, ou en Europe. Et donc c'est un phénomène absolument général, on est dans une mondialisation, les pays sont devenus très interdépendants et il y a vraiment un ralentissement absolument général. Par exemple en Chine, le niveau de croissance qui est pourtant élevé selon nos chiffres à nous, 6% prévu, et il y a 27 ans qu'ils n'avaient pas eu un niveau de croissance aussi bas.
Oui, c'était au début de la croissance chinoise, tout simplement.
Bon. Alors, et si on reste en Europe, bon, on voit que la zone euro, en particulier dans laquelle nous sommes, nous, la France, avec d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, etc., l'Espagne, eh bien, on est dans une situation pas très brillante. Alors moi, je voudrais rajouter, il a été dit à juste titre, vous l'avez dit dans votre annonce, qu'il y a des phénomènes les nuages, comme on disait, qui s'annoncent, qui s'accumulent, la guerre commerciale, le Brexit, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient avec les problèmes de production de pétrole qui sont mis en cause par la guerre au Yémen, etc. Bon, très bien, ça va très bien, en tout cas c'est clair, mais je pense qu'il y a autre chose à dire. Je pense que, je ne sais pas si Christian de Boissieu sera d'accord avec moi, je pense qu'on est rentré dans un nouveau cycle de croissance lente et d'inflation basse. J'appellerais ça un nouveau régime de croissance, basse inflation, et que c'est quelque chose qui a déjà commencé et qui pourrait être durable. Et donc, au-delà des chocs comme le Brexit, comme la guerre commerciale, etc., qui sont réels hein, et qui s'inscrivent aussi dans le panorama d'ensemble, je pense qu'il faut raisonner maintenant par rapport à un changement très important, de nature structurelle et peut-être durable. Alors, je ne suis pas parti des économistes qui défendent la stagnation séculaire en disant « ça y est, on va stagner ». Non, ni récession au sens de croissance négative, ni stagnation au sens de croissance zéro, mais par contre, ralentissement marqué et durable. Je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère, donc je ne sais pas si Christian est d'accord. Et je pense, et il a eu raison de le dire en terminant son intervention, qu'il faut qu'on parle des politiques. Je pense que les politiques actuelles ne sont absolument pas adaptées au nouveau contexte dans lequel nous sommes.
Un changement systémique, Christian de Boissieu, vous l'analysez comme ça aussi ?
Moi, j'entends bien l'argument. Je me permets de dire que je manque un peu de recul historique par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance au ralentissement des gains de productivité dans beaucoup de pays, malgré les nouvelles technologies. On pouvait penser que, j'allais dire, après Internet, le digital, tout ça, ça allait faire exploser, je veux dire, augmenter considérablement les gains de productivité derrière la croissance. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Je pense que à côté ou derrière cette question de savoir si on est sur une transition vers une croissance plus lente, je pense qu'il y a un énorme problème du côté des indicateurs. Les deux sont liés. On travaille sans doute aujourd'hui, je ne parle pas uniquement du PIB qui est en débat depuis 15 ans, le PIB est trop étroit par rapport aux questions d'environnement, par rapport aux normes sociales, etc. Ça fait 10-15 ans qu'on le sait, même si on n'arrive pas à corriger. Mais je dis même, la mesure de la productivité me paraît reposer sur des statistiques contestables aussi, parce que la production est difficile à mesurer. Donc, on a un énorme problème, nous, économistes. C'est pas contradictoire avec ce qu'a dit Dominique, mais je pense que ces changements de fonctionnement de l'économie n'ont pas été accompagnés par un changement des indicateurs et des statistiques pertinentes.
Eh bien justement, je vais vous parler d'indicateurs, parce que on a eu au cours de l'été, à deux reprises au moins, peut-être trois d'ailleurs, on nous a parlé d'inversion des courbes sur les obligations américaines. Est-ce que c'est parmi les signes avant-coureurs d'une récession? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela et pourquoi c'est inquiétant, Dominique Plion ?
La courbe des taux, vous voulez dire ?
Oui, la courbe des taux, c'est ça. Voilà.
Oui, en principe, une courbe des taux...
On va essayer d'être didactique.
Soyons didactiques, qui mesure, qui indique le niveau des taux en fonction des échéances. Donc, à court terme, on a des taux en principe plus bas, et à long terme, des taux plus élevés. Pourquoi ? Parce qu'il est plus risqué de prêter à long terme, par exemple. Bon. Et on s'aperçoit que la courbe s'est inversée, au sens où on a des taux longs qui sont devenus, sur certains éléments de la courbe, plus bas que les taux courts. Voilà. Alors ça, c'est mauvais parce que ça veut dire que quelque part l'économie ne tourne pas normalement, que
ça veut dire qu'on n'a pas confiance en l'avenir, quoi, tout simplement.
Exactement, et que l'évaluation des risques se fait pas dans les bonnes conditions. Alors, est-ce à dire pour autant que ça annonce une crise future? Je ne sais pas, mais en tout cas, je fais partie quand même des économistes qui pensent que si demain on a un nouveau choc financier. Je ne parle pas de crise financière, mais disons un choc financier important, il viendra peut-être sur le marché obligataire, où il y a une bulle très importante, alimentée par les liquidités qu'émettent notamment les banques centrales. Et tôt ou tard, quand on a une bulle, bien, elle finit par imploser. Suite à un choc, alors on ne peut pas dire la date, parce que tout dépend du choc, quand il se produira et quand il y aura une sorte de panique sur le marché, mais je pense qu'en effet, il y a un problème avec les taux d'intérêt et avec notamment le marché obligataire.
Christian de Boissieu, vous parliez de recul historique, là apparemment cette inversion de la courbe des taux précède toujours une récession, c'est prédictif ou quasiment?
Oui, en tout cas, quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, dans les derniers cas de récession, ces récessions avaient été précédées dans le contexte américain, je précise, par une inversion de la courbe 1 ou 2 ans. Il y a un décalage entre l'inversion de la courbe et la récession qui suit. Alors, ceci dit, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça se passera nécessairement comme ça dans les deux ans qui viennent. J'ajoute quand même que quand je regarde ce qui s'est passé au mois d'août, c'était votre point de départ, du côté américain, l'inversion entre le fait que les taux courts soient passés au-dessus, les taux courts ou à moyen terme soient passés au-dessus des taux à long terme, c'était assez peu marqué, et je suis pas sûr qu'il faille nécessairement extrapoler ça. Donc, attendons de voir. Si je peux rebondir sur un point important qui
bien
est
sûr, allez-y.
Les questions de est-ce que nous sommes à la veille ou est-ce que nous sommes menacés par des crises financières, parce que là, ça rajouterait à votre liste de départ, à
oui,
votre
absolument.
Liste à l'après-vert. S'il y avait un choc comparable à celui de 2007-2008, on serait pas bien aujourd'hui, et on serait d'autant moins bien que les banques centrales n'ont plus de marge de manœuvre, elles ont tout lâché. Et quand vous avez tout donné, par définition, vous n'avez plus rien à donner.
Oui.
Sauf à inventer, enfin on y reviendra peut-être, des schémas de monnaie dits hélicoptères auxquels je crois pas nécessairement. Mais quoi qu'il en soit, je suis comme Dominique assez inquiet de la fragilité financière actuelle. Alors, le marché obligataire, quand vous êtes dans une situation où vous avez des taux négatifs pour beaucoup d'États aujourd'hui en Europe, y compris la France, je veux dire, tant mieux pour elle, mais je veux dire, s'installer durablement dans des taux négatif, c'est un changement de régime. Alors, est-ce qu'il y a un certain nombre de nos collègues, peut-être Dominique, j'en sais rien, qui pensent que ça va durer des années, ces taux négatifs. Moi, je me dis quand même que parce qu'il y a une bulle sur le marché obligataire, je sais qu'une bulle finit toujours par exploser. Je ne sais pas quand. Mmh. Elle est là, la difficulté. Elle est sur le calendrier. Et donc, aujourd'hui, les États en Europe, Allemagne, France, Pays-Bas et d'autres, emprunte à des taux négatifs, c'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers en sens que c'est en quelque sorte, il faut au lieu que ça soit l'emprunteur qui paye, c'est le créancier qui paye. Mmh. C'est ce que j'appelle le monde à l'envers. Et alors les États en profitent peut-être un peu trop. Et je voudrais pas qu'on s'endorme, nous, par exemple du côté français ou dans d'autres pays, sur cette situation où les charges d'intérêt ont beaucoup baissé, au point que on fait rien du côté des budgets et des finances publiques.
Dominique Plion, c'est inédit, des taux aussi bas, voire négatifs pour le refinancement des banques pendant aussi longtemps. Est-ce que c'est la question que posait Christian de Boissieu, les banques centrales ont le pied sur l'accélérateur. Est-ce qu'elles en ont encore sous le pied?
Oui, non, je rejoins l'idée que les banques centrales ont donné tout ce qu'elles pouvaient. Le fait d'avoir des taux négatifs, le taux d'avoir des taux négatifs sur une période.
Politique accommodante, rachat d'actifs,
quantitative easing, assouplissement monétaire. Tout ça, c'est quelque chose de historiquement tout à fait exceptionnel. Et d'avoir des taux négatifs, une période aussi longue, c'est quelque chose aussi d'exceptionnel. Alors là, peut-être qu'on aura un point de différence, par contre, avec Christian. Je voudrais aborder les politiques économiques. C'est qu'aujourd'hui, on l'a dit tous les deux, les politiques monétaires ont donné tout ce qu'elles pouvaient donner. Or, on a d'autres instruments de politique économique qui sont absolument pas mobilisés dans la
notamment en Europe, vous parlez de
en
politique
Europe,
budgétaire.
En particulier en Europe, mais aussi dans d'autres régions. Hein. En Asie, par exemple. Je pense que les politiques budgétaires et fiscales ne sont pas assez mobilisées aujourd'hui. Et on marche. Donc, je vais employer une image. On a ces deux. On dit que souvent, ce sont les deux principaux instruments hein, macroéconomiques, hein, la politique monétaire, la politique budgétaire et fiscale. Donc, on est dans une situation où on pousse sur l'accélérateur d'un côté, c'est la politique monétaire accommodante, et on appuie sur le frein de l'autre. Ce sont les politiques budgétaires et fiscales qui, dans l'ensemble, sont plutôt restrictives. Et je rajouterais les politiques salariales, d'ailleurs. On pourrait rajouter comme... Or, quand on conduit une voiture, qu'on appuie d'un côté sur l'accélérateur, de l'autre sur le frein, on fait une embardée.
On tête à queue, en général.
Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a perdu. Pourtant, c'était dans... Christian de Boissieu ne me contredira pas. Dans la théorie économique, la théorie des politiques économiques, Christian a écrit un ouvrage magistral sur la politique économique, et tu en parlais de ça. Hein. Eh bien, le policy mix, ce qu'on appelait le policy mix à l'époque, c'était de dire il faut combiner, pour les articuler de manière optimale, les politiques économiques, de manière à, lorsqu'on est, par exemple, en risque de récession, eh bien, avoir une politique monétaire accommodante, mais aussi une politique budgétaire qui va dans le même sens, pour ne pas contrecarrer la politique. Or, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Et donc, là où j'aurais peut-être le point de désaccord avec Christian de Boissieu, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les gouvernements, en France notamment, en Allemagne en particulier, ont une opportunité exceptionnelle de lancer des programmes d'investissement public par rapport à la question notamment de la transition, qui est vraiment un des défis majeurs
transition écologique, oui.
Pour lutter notamment contre le réchauffement climatique, eh bien, qui est un des défis majeurs pour notre société, et ils ne le font pas. Or, s'ils le faisaient, d'une manière concertée, si possible à l'échelle européenne, on aurait une politique qui serait bien plus adaptée aux enjeux actuels, enjeux de la récession, enjeux de la transition.
Christian de Boissieu, il y a une sorte de tabou au fil des années qui s'est installé sur la relance budgétaire, avec le libéralisme pendant des années.
Moi, je reste, excusez-moi de le dire, par pas mal de côtés, je reste keynésien, donc je crois que dans certains contextes, il faut utiliser l'arme budgétaire et fiscale. Le débat qu'on a est un débat à l'intérieur de l'Europe, pour prendre cet exemple concret. C'est-à-dire que des pays qui ont des excédents budgétaires, et même des excédents extérieurs, je pense évidemment à l'Allemagne.
Évidemment, c'est ce qu'a dit Mario Draghi la semaine dernière.
Voilà, et je pense aux Pays-Bas qu'on cite rarement, plus rarement, c'est moins important que l'Allemagne, mais ça existe, les Pays-Bas. Ben, ces pays-là, donc, qui ont des marges de manœuvre, devraient les utiliser. D'autant plus que l'Allemagne est au bord de la récession. Donc, ça serait son intérêt de faire une relance par l'investissement public. Je parle des Allemands. Ça serait pas uniquement nous faire un cadeau à nous, Français, Italiens, Espagnols, etc.
Parce que c'est comme ça que c'est vécu en Allemagne depuis des années.
Ils ont le sentiment, en plus, les Allemands, ils sont pas contents parce que les épargnants ont des taux négatifs et parce qu'ils ont le sentiment, comme d'habitude, qu'ils vont payer pour les autres. Mais là, si l'Europe existait vraiment, s'il y avait une coordination au niveau européen, l'Allemagne ferait une relance budgétaire et fiscale, les Pays-Bas aussi. Je suis pas sûr que la France soit le mieux placée pour, en quelque sorte, montrer l'exemple. J'ajoute un point important qui complète ce qui a été dit, parce que il y a monnaie, budget, c'est très important, mais il y a aussi d'autres voies. Pour nous, en Europe, il y a de l'épargne. Le problème, c'est qu'elle n'est pas nécessairement utilisée là où il faudrait qu'elle soit affectée. Et moi, je suis partisan aujourd'hui qu'au niveau européen, la nouvelle Commission européenne qui va arriver, renforce ce qu'on appelle le plan Juncker, c'est-à-dire, pour être concret, il y a une banque européenne d'investissement aujourd'hui qui est à Luxembourg, qui emprunte sur les marchés et qui reprête aux PME, qui permet de financer l'innovation, la R&D, financer des infrastructures publiques. Je souhaite que, puisqu'il y a de l'épargne, les ménages, ils épargnent globalement en Europe, malgré les difficultés économiques, je souhaite que la BEI, qu'on donne les moyens à la BEI, d'emprunter plus et de reprêter plus. Et ça, c'est hors politique budgétaire et c'est hors politique monétaire.
Dominique Plion, une nécessité peut-être aussi de coordination entre les politiques budgétaires, économiques, un budget européen. Ça pourrait être
il faut une double coordination. Il faut une coordination entre les pays. En effet, les pays qui ont des marges de manœuvre, comme l'Allemagne, avec une épargne excédentaire considérable, doivent s'adapter et faire, en effet, de la relance qui permettrait de réduire leur épargne excessive et aussi de stimuler leur économie, mais surtout de permettre, parce que les infrastructures allemandes sont de mauvaise qualité en ce moment, elles sont fortement détériorées à cause du sous-investissement. Donc ça, c'est le premier niveau de coordination. Mais aussi, je pense que dans chaque pays, comme à l'échelle européenne, il faut une coordination entre les politiques monétaires et budgétaires. Ça n'a pas de sens d'avoir d'un côté une politique européenne accommodante au plan monétaire et d'avoir dans certains pays des politiques budgétaires qui soient trop restrictives. Alors, Christian de Boissieu dit qu'il est keynésien. Une des propositions de Keynes, qui est pas très connue, c'est que Keynes avait écrit qu'il faut sanctuariser, il faut présenter les budgets différemment. Et il faut notamment, dans les budgets, sanctuariser certaines catégories d'investissement qui sont considérés comme des catégories d'investissement de long terme par rapport aux dépenses de moyen et de court et moyen terme. Moi, je pense que, et c'est là que les règles européennes ne sont pas adaptées, je pense que à l'échelle européenne comme à l'échelle des différents pays, il faut décider qu'il y a des investissements qui sont absolument prioritaires, comme les investissements de long terme pour la transition, et que la question de l'équilibre, du sacro-saint équilibre ou du déficit qui ne doit pas être supérieur à 3% du PIB, dans ces cas-là, ne doit pas être un frein à ces politiques. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, doit être modifié dans les règles européennes.
Merci Dominique Plion. Merci également à vous, Christian de Boissieu, d'avoir participé à cette émission qui est déjà terminée. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Fabrice Violet, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.